France Inter, le 7-9. Intervenez.
À mes côtés, Nathalie Hernandez, spécialiste défense à la rédaction de France Inter. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
On poursuit notre entretien avec la ministre des Armées, Florence Parly. Au standard, c'est Isabelle qui a la parole. Bonjour madame et bienvenue.
Oui, bonjour France Inter, bonjour à tous. Bonjour madame la ministre. Donc j'avais une question concernant les gendarmes adjoints volontaires de gendarmerie. Donc ils sont contraints aux mêmes missions que les gendarmes de carrière. Là où le bas blesse, c'est que ces gendarmes adjoints volontaires de gendarmerie ont un salaire de 800 euros par mois. J'aurais voulu savoir si dans le budget de 295 milliards d'euros annoncé par la ministre, si une augmentation du salaire de ces jeunes était envisagée pour qu'enfin ils aient un salaire décent puisqu'ils s'occupent aussi au même titre de notre sécurité.
Merci Isabelle pour cette question. Florence Parly vous répond.
J'aurais été ravie de pouvoir vous répondre, mais les gendarmes relèvent du ministre de l'Intérieur. Donc, je comprends tout à fait le sens de la question. Il s'agit au fond, à travers votre question, d'inciter le plus grand nombre de Français à participer à l'effort de défense. Et pour cela, une garde nationale a été instituée. Elle est composée à la fois de militaires, dont j'ai la responsabilité, et de gendarmes ou de personnel qui relève du ministère de l'Intérieur. Et donc, ce que je peux dire, c'est que nous prenons un certain nombre de mesures pour rendre cet engagement volontaire plus attractif. Nous avons réglé un certain nombre de questions qui nous étaient remontées sur la lenteur avec laquelle, en effet, les indemnités étaient payées. Nous avons institué une prime et nous pensons qu'en effet, c'est un axe tout à fait prioritaire. Mais je suis désolée de ne pas pouvoir répondre de façon plus spécifique à une question qu'il faudrait adresser au ministre de l'Intérieur.
Alors, il y a de nombreuses question sur le reportage qui a été diffusé hier par envoyé spécial sur Twitter. C'était un reportage sur la guerre au Yémen. À quand la fin des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite qui écrase les civils yéménites? Pourquoi la France, autre tweet de Maxime, continue-t-elle de vendre des armes aux belligérants de la guerre au Yémen?
Alors, je voudrais rappeler quelques principes. Nous ne vendons pas des armes n'importe comment. Rien n'est plus encadré que le régime d'autorisation d'exportation des armements. Il y a une procédure, il y a une commission, tout cela se passe sous le regard du Parlement. Il y a un rapport qui est public sur la manière dont ces autorisations d'exportation sont données. Un certain nombre de critères sont pris en compte. La situation,
donc, il n'y a pas de
la situation des pays.
Il n'y a pas de bombe française larguée sur le Yémen.
Il y a un encadrement très strict des exportations d'armement. Et par ailleurs, vous le savez aussi, le secteur de l'armement est un secteur, c'est un secteur industriel qui occupe de très nombreuses entreprises. Donc je comprends la question qui est posée. Et j'y réponds en disant que nous contrôlons et nous encadrons ces exportations. Et nous allons même jusqu'à, dans certains cas, remettre en cause des processus qui avaient été engagés. Je vous rappelle que nous n'avons pas livré des Mistral à la Russie. Donc nous savons aussi interrompre des processus.
Donc vous savez à qui vous vendez des armes, ça on est d'accord, mais il n'y a pas une condition qui est posée quand vous vendez une arme pour dire attention, n'allez pas vous servir de nos armes d'origine française pour bombarder au mépris des droits de l'homme tel ou tel territoire. Ça, est-ce que ça, au moins vous pouvez nous le confirmer? C'est la question encore une fois de savoir si des bombes françaises tombent sur les yéménites.
L'utilisation des armes, une fois livrées, est normalement encadrée. Mais les conflits peuvent évoluer. Qui pouvait imaginer la survenance de ce conflit au Yémen?
Les Yéménites peuvent prendre sur la tête une bombe française.
Et beaucoup de pays sont confrontés à cette situation que d'avoir, le cas échéant, livré des armes à d'autres pays alors que ces armes n'étaient pas censées être utilisées.
Nathalie Hernandez.
Moi, je voulais vous parler bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Du Service National Universel. On doit avoir des conclusions de l'Assemblée le 21 février. Est-ce que, vous, de votre point de vue, est-ce que vous pensez que ce service doit être militarisé et est-ce que vous pensez qu'il doit être obligatoire? Parce que c'est quand même deux questions fondamentales.
Alors, ce service national, c'est un projet formidablement enthousiasmant et ambitieux, puisque c'est une façon de recréer du lien entre les armées, la nation, recréer aussi une envie chez nos jeunes, puisque c'est l'ensemble d'une classe d'âge qui sera concernée, de contribuer à la vie civique. Et ce projet va donc concerner bien plus de jeunes qu'il ne concernait dans le passé la conscription. Alors, je ne crois pas que le projet consiste à rétablir la conscription, ni à rétablir un service militaire dans lequel on apprendrait aux 800 000 jeunes d'une génération à manier les armes. C'est un projet dont les contours pour l'instant ne sont pas encore déterminés. Vous avez cité des travaux parlementaires qui seront bientôt communiqués. Par ailleurs, un groupe de travail se met en place pour en tracer également les contours et définir le contenu de ce service. Ce sera un service qui probablement n'aura pas un caractère obligatoire au sens où les gendarmes viendraient rechercher les réfractaires, mais ce sera un service qu'on cherchera à rendre attractif pour les jeunes afin qu'ils soient incités à le réaliser, à la fois pour eux-mêmes, pour ce qu'ils y apprendront et aussi pour ce qu'ils pourront donner aux autres.
Allez, on retourne au standard, il nous reste 5 minutes. Aurélie, bonjour, vous nous appelez de Paris.
Bonjour Monsieur Demorand, bonjour France Inter, bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Alors voilà, je suis un peu surprise de l'augmentation du budget de la défense. Que je sache, nous ne sommes pas, cible d'un conflit à court moyen terme. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt un rééquilibrage du budget à faire en faveur de mesures sociales qui sont vraiment cruciales aujourd'hui pour ce pays?
Donc, plutôt investir dans les politiques sociales que dans les armes et la défense, c'est là l'urgence selon vous, Aurélie. Florence Parly vous répond. On n'est pas en guerre, disait notre auditrice.
On n'est pas en guerre, mais nous menons un certain nombre de combats. Et nous les menons depuis plusieurs années. Ces combats, c'est principalement la lutte contre le terrorisme qui nous a touchés, qui a touché notre pays, qui a touché nos concitoyens. Et c'est pour cela que nous sommes déployés sur un certain nombre de théâtres. Alors, peut-être que, oui, vous avez raison, nous ne sommes pas en guerre au sens classique du terme sur notre territoire, mais nous menons des combats et un combat intense contre le terrorisme. Et ce combat, il a usé nos armées à un moment où, pendant des années, ce budget a servi en quelque sorte, non pas de variable d'ajustement, mais il a contribué à la maîtrise des dépenses publiques. Donc il était urgent d'intervenir. Donc je comprends votre inquiétude. Est-ce que cette croissance des moyens ne va pas créer une pression négative sur d'autres priorités publiques? C'est tout l'art, si je puis dire, de gouverner que de définir un certain nombre de priorités. Et je suis certaine que Madame Buzyn, lorsqu'elle est à ce micro de France Inter est tout à fait engagée dans des priorités fortes pour les solidarités, notre système de santé, bientôt la réforme des retraites. Et donc non, il n'y a pas opposition entre l'effort de défense et puis par ailleurs les politiques sociales. Il y a complémentarité et je voudrais enfin dire que ce ministère des armées, lui aussi, il contribue à la cohésion et la solidarité de la nation, puisque c'est un ministère dans lequel il y a des écoles de formation qui sont des écoles qui permettent de faire fonctionner l'ascenseur social, parce que l'on peut y entrer sans aucun diplôme, et l'on peut ensuite faire toute une carrière, y acquérir des qualifications, et ensuite pouvoir faire une Nathalie. Seconde vie professionnelle, notamment dans les entreprises, dans la fonction publique. Donc je pense qu'il faut aussi prendre en compte cette dimension.
Nathalie Hernandez.
Madame la ministre, on n'est pas en guerre, effectivement, mais il y a des menaces différentes aujourd'hui, peut-être plus imprévisibles, comme vous le disiez. Il y a notamment la cyber, hein, cet espace virtuel, cette cyberdéfense à laquelle vous êtes attaché. Est-ce qu'aujourd'hui la France va avoir une position plus offensive en cas d'attaque? Jusqu'où la France peut-elle aller?
Alors c'est vrai que le cyber constitue à la fois une menace et une opportunité. Le cyber, qu'est-ce que c'est ? C'est la numérisation de l'univers dans lequel nous vivons. Donc c'est une opportunité formidable, on le voit tous les jours dans nos usages quotidiens. En même temps, c'est un risque, puisqu'on voit aussi que des attaquants peuvent prendre le contrôle du système informatique d'un hôpital, comme cela a été le cas en Grande-Bretagne. Donc il faut, avant toute chose, se protéger. Donc se protéger, c'est le rôle, bien sûr, de l'État, c'est le rôle aussi des entreprises, c'est le rôle de chacun d'entre nous en particulier. Et pour ce qui concerne le ministère des Armées, oui, nous devons d'abord protéger nos propres systèmes numériques, éviter que des tiers puissent en prendre le contrôle, par exemple, et puis également être capable de tracer, c'est-à-dire d'identifier les attaques virales dont nous pouvons être l'objet.
Et vous allez demander aux opérateurs de travailler avec vous pour faire ce travail-là, repérer ce qui semble bizarre et peut déboucher sur une attaque. Il y a des inquiétudes sur le plan des libertés publiques sur ce thème-là. Normalement, les opérateurs se contentent de fournir des tuyaux, pas de regarder ce qui y passe.
Alors, la loi de programmation militaire prévoit de permettre la recherche par les opérateurs des traces informatiques laissées par ceux qui voudraient mener des attaques. Donc, il ne s'agit pas de contenu. Nous ne regarderons pas, nous ne leur demandons pas de regarder ce qu'il y a à l'intérieur des messages. Ce que nous voulons regarder, c'est quelle est la trace pour pouvoir identifier celui qui en est l'auteur. Donc c'est comme si je prenais l'exemple d'une lettre. Nous ne voulons pas ouvrir la lettre, nous voulons juste vérifier que sur l'enveloppe il y a le cachet de la poste et où est-ce qu'elle a été postée.
Donc pas voilà d'atteinte aux libertés ce que nous publiques, voulons faire. Dites-vous, pour rassurer les gens qui s'en inquiètent. Un mot de précision pour terminer, c'est Jean-Louis de Paris qui nous rappelle à l'ordre. Nous avons donc fait la confusion, nous dit-il, entre dichlore et chlore. Le dichlore est un gaz bien plus dangereux que le chlore et c'est celui-là qui est utilisé. Dont acte Jean-Louis. Merci en tout cas d'avoir fait cette précision et merci à vous Florence Parly d'avoir été au micro d'Inter.